France Inter. Léa Salamé, Nicolas Demorand, le 7-9.
Et avec Léa Salamé, notre invité ce matin dans le grand entretien est physicien et philosophe des sciences. Il publie dans la collection Tract chez Gallimard un court texte qui s'intitule « Le goût du vrai », texte écrit dans le sillage de la crise sanitaire et de l'épidémie de coronavirus. Étienne Klein, bonjour.
Bonjour.
Et merci d'être au micro d'Inter ce matin. Il nous semblait important de vous recevoir pour revenir donc sur les derniers mois qu'on a traversés, cette épidémie et son corollaire, l'arrivée en force dans l'espace public des médecins, des chercheurs, des scientifiques, virologues, infectiologues, urgentistes d'abord, réanimateurs malheureusement ensuite, sans parler des statisticiens et des anthropologues. Deux conseils scientifiques ont par ailleurs épaulé l'exécutif, on va en parler dans quelques instants. Dites-nous pour commencer, comment vous avez vécu cet aspect de l'épidémie? Avez-vous été effaré par la place prise par la science, par le traitement que les médias lui ont fait subir, mais aussi peut-être par la manière dont nous, profanes, avons réagi à cette brusque arrivée de la science et des scientifiques dans nos conversations de tous les jours?
Effaré, c'est pas le mot. J'ai été très intéressé de voir l'évolution des rapports entre, disons, le discours politique et le discours scientifique. Il y a eu le conflit dès le début entre deux types de temporalité. La temporalité de la recherche, qui demande du temps pour voir si un traitement est efficace, il faut faire des études, déployer une méthodologie qui est chronophage. Et puis le politique, les gouvernants, disons, doivent prendre des décisions dans l'urgence et en méconnaissance de cause, puisque les chercheurs, puisqu'ils cherchent, ne peuvent pas répondre à toutes les questions. S'ils cherchent, c'est parce qu'ils ne savent pas tout. Et donc le politique doit prendre des risques et prendre des décisions sans pouvoir les argumenter complètement. Et j'ai trouvé que ça s'est plutôt bien passé avec le conseil scientifique, dans les premières phases en tout cas, puisque au début, on entendait beaucoup de personnalités politiques, où on les lisait par les tweets qu'ils publiaient, disant « je ne suis pas médecin, mais je pense que ». C'est-à-dire, on affirme qu'on est incompétent, et ensuite on délivre des conseils, des prescriptions, un peu comme une ordonnance. Et ça m'a paru symptomatique de l'époque.
Cette phrase vous agace particulièrement, qu'elle soit employée. D'ailleurs, vous avez dans votre précédent tract de crise, vous analysiez cette phrase devenue un objet de plaisanterie sur les réseaux sociaux. Il y a les politiques qui l'emploient, mais enfin, on l'a tous employé. « Je ne suis pas médecin, mais j'assène plein de vérités auxquelles je crois et avec une certitude et un aplomb fou. »
Oui, mais vous avez peut-être remarqué comme moi que cette phrase n'est plus prononcée. Et donc ça, c'est vraiment symptomatique d'un effet bien connu des psychologues qui s'appelle l'effet Dunning-Kruger.
Expliquez-nous.
Du nom de deux psychologues qui l'ont étudié, même si l'idée se retrouvait déjà chez Aristote et même chez Coluche. Hein, Coluche avait fait un sketch pour montrer que, enfin, disons que pour se rendre compte qu'on est bête, faut être intelligent. Mais l'effet Dunning-Kruger, c'est pour se rendre compte qu'on est incompétent, il faut être compétent. Au début, on a confiance en soi, on assène des vérités sans savoir. Et puis c'est en travaillant qu'on se rend compte que la question est plus compliquée et qu'on perd en assurance jusqu'à ce que, à force de travail, on finisse par récupérer de l'assurance. Et donc au début, on dit « je ne suis pas médecin, mais je ». Et puis à force d'entendre les experts, on se rend compte que c'est quand même compliqué l'épidémiologie. Mmh. Et on arrête de dire ce genre de phrases.
Alors Étienne Klein, on a appris des noms de molécules compliquées au fil de l'épidémie. Hydroxychloroquine, chlorpromazine, dexaméthasone. Vous analysez des biais cognitifs, vous venez d'en décrire un à l'instant, qui font que l'on parle avec assurance des sujets qu'on ne connaît pas. Vous appelez ça l'ultra-crépidarianisme. Il a fait des ravages pendant l'épidémie. Expliquez-nous, on dirait une maladie.
Ce n'est pas un mot que j'ai inventé, c'est un nom de maladie, mais en fait ça vient d'un dicton latin qui dit en gros « le cordonnier doit s'arrêter à la chaussure ». Donc il ne faut pas parler de ce qu'on ne connaît pas. Et en effet, c'est une tendance qui a l'air de se développer, enfin en tout cas d'être très en forme.
Mmh. Vous citez notamment un sondage du Parisien qui appelait les Français à se prononcer sur l'efficacité de la chloroquine. Seuls 21% des personnes interrogées ont déclaré ne pas savoir quoi en penser. En revanche, 80% des Français savaient exactement quoi penser de la chloroquine.
Alors c'est ce sondage qui m'a mis sur la voie de ce tract. Alors là, pour le coup, ce sondage m'a traumatisé. C'était le 5 avril, le Parisien publiait un sondage demandant aux Français, enfin, la question posée aux Français était « est-ce que tel traitement est efficace ?» À une époque où personne n'en savait rien, puisque aucun protocole n'avait abouti. Donc les spécialistes ne pouvaient pas dire. Donc personne ne savait comment répondre à cette question. Et je crois, si ma mémoire est bonne, que 59% des personnes ont répondu oui. 20% ont répondu non. Et puis seulement 21% ou 20% ont répondu « je ne sais pas », alors que tout le monde aurait dû dire « je ne sais pas ».
Qu'est-ce que ça dit de l'époque ?
Ben, ça dit des choses des Français, de leur rapport à la croyance et de la promptitude avec laquelle ils se déclarent experts. Ça ne dit rien du traitement en question. Et donc, imaginez qu'on pose le même type de question à propos de n'importe quelle question scientifique. Est-ce que vous pensez que le boson de Higgs existe ?
Oui.
Est-ce que vous pensez que la Terre est ronde ? Il n'y a pas 100% des gens qui répondront que la Terre est ronde. Donc qu'est-ce que vous faites de ce sondage ? Vous dites que si par exemple la proportion de gens qui disent que la Terre est plate est de 17%, ce qui est le résultat d'un ancien sondage, qu'est-ce que vous considérez devoir faire à partir de ce sondage ? Vous dites que la Terre est ronde à 83% et qu'il y a une partie plate. Donc je pense que vouloir mettre la science sous la coupe du sens commun ou de l'intuition... ou du préjugé, c'est ça qui m'a pour le coup traumatisé dans la période qu'on vient de vivre.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer l'autre biais que vous isolez qui s'appelle l'ipsédixitisme ?
Qu'est-ce que ça veut dire ? Vous avez fait des lettres, Nicolas Martin, c'est assez bien.
Nicolas de Morant.
Oui, excusez-moi, j'étais sur France Culture.
Mais allez-y, oui.
Bah, ipsé, c'est lui-même. Lui-même l'a dit. Ipsédixitisme. Alors lui-même, c'est le maître. Le maître l'a dit. Et donc, je déclare que ce qu'il dit est vrai sans exercer à l'égard de ce qu'il dit mon esprit critique. Mmh. Et en version dégradée, ça donne « je l'ai entendu quelque part, donc c'est vrai ». Et comme nous avons tendance à croire que les idées que nous aimons sont plus vraies que les autres, eh bien, l'ipsédixitisme fait que nous n'exerçons plus notre esprit critique lorsque la thèse qui est avancée, sans être argumentée, nous plaît davantage que son contraire.
Y a une critique contre les médecins qui a été formulée par Bernard-Henri Lévy. Je ne sais pas si vous avez lu son livre. En gros, il dit « on est devenu fou, on s'est soumis docilement aux injonctions des médecins ». Il cite Michel Foucault sur l'emprise, sur la dictature du pouvoir médical. Et il note, je cite BHL, « jamais les choses n'étaient allées aussi loin. Jamais un médecin ne s'était invité chaque soir dans les foyers pour annoncer telle une pitié triste le nombre de morts dans la journée. Jamais l'on avait vu comme en Europe des chefs d'État s'entourer avant de parler d'un ou de plusieurs conseils scientifiques. Est-ce que vous trouvez comme lui que le pouvoir politique s'est soumis trop volontairement et docilement à la décision scientifique ?
Écoutez, je ne crois pas être assez intelligent pour comprendre cette argumentation. C'est-à-dire que quand il y a une épidémie, évidemment qu'on doit tenir compte de ce que les experts savent et aussi de ce qu'ils disent ne pas savoir. Parce qu'un expert, c'est quelqu'un qui sait ce qu'on sait et qui sait ce qu'on ne sait pas. Mmh. Et le rôle d'un conseil scientifique dans des situations d'urgence comme celles qu'on a connues, c'est, comme le dit Alain Supiot, qui est juriste, professeur au Collège de France, d'assurer un service de phare et balise. Il doit éclairer le pouvoir politique, puisque le pouvoir ne pourrait pas prendre de décision sans tenir compte de ce que disent les scientifiques. Autrement dit, il ne doit pas faire comme Donald Trump. Et en même temps, il doit balise, ça veut dire qu'il doit signaler les dangers, les écueils, les risques, etc. Et le pouvoir politique prend ses décisions de façon responsable, sans constamment se soumettre à l'avis du conseil scientifique. D'ailleurs, à la fin, il y a eu des écarts entre ce qui était recommandé et ce qui a été décidé.
Ouais. Mais Étienne Klein, la parole des experts, les phares et balises, le problème, c'est qu'elles n'étaient pas toujours les mêmes et que la parole des experts s'est contredite énormément. Ce que je veux dire, c'est que les scientifiques n'étaient absolument pas d'accord entre eux. Au début, on a appris que les enfants étaient des super propagateurs avant qu'on apprenne que non, en fait, pas du tout. Ils ne sont pas contaminés ou pas propagateurs. Au début, on nous a expliqué, les scientifiques, les experts, que les masques ne servaient à rien. Et du coup, les politiques ont dit les masques ne servent à rien. Et ensuite, on a dit, si, les masques, c'est un besoin impérieux de l'avoir. Au début, on a dit, le confinement, il faut confiner absolument. Et après, on a dit, non, il faut laisser le virus circuler. Ce que je vous dis là, ce n'est pas le bon sens populaire, c'est la parole des scientifiques. Il n'y a pas eu un problème là aussi ?
Mais si vous voulez, la recherche, ça consiste en effet à s'engueuler, à ne pas être d'accord. Mais le plus
simple, qu'on est face à une épidémie là.
Le plus simple quand on ne sait pas, c'est de dire je ne sais pas. Et un expert qui ne sait pas devrait dire, si le monde était normal, je ne sais pas. Sauf que s'il dit je ne sais pas, ou s'il fait des phrases truffées de conditionnels, il va être médiatiquement débordé par quelqu'un qui, grâce à son ultra-crépidarianisme, tranche les questions avec un ton très assuré. Et donc c'est assez délicat. Moi je pense que quand on est dans un régime d'épidémie assez angoissant, on a besoin de certitudes et on va les trouver là où des gens nous les proposent.
Étienne Klein, la science est-elle fondamentalement quelque chose, je vais là aussi trancher la question, réservée aux experts, quelque chose qui n'est pas, par essence, démocratique ?
Alors, c'est une question délicate, hein, et je vais peser mes mots. Elle n'est pas démocratique par essence. C'est-à-dire que si on avait demandé à la population de voter pour ou contre la théorie de la relativité restreinte en 1905, l'année où Einstein l'a élaborée, la réponse aurait été non. Et d'ailleurs, même si on avait fait voter les physiciens, ils auraient voté non. Donc elle n'est pas démocratique au sens où, comme le disait David Hume, que je cite dans le tract, même si la totalité de la population décrétait que c'est le Soleil qui tourne autour de la Terre, ça ne changerait pas la trajectoire du Soleil, ni celle de la Terre d'ailleurs. Maintenant, à mon avis, la science, elle est républicaine. C'est-à-dire que tout citoyen a le droit de poser n'importe quel type de question et on doit lui répondre. Et le fait de dire que la vérité scientifique ne dépend pas de l'opinion, ça n'entrave pas la liberté des citoyens, au contraire. Puisque au nom de cette liberté, ou plutôt au nom de la vérité, on peut attaquer un pouvoir qui dirait le contraire de ce que cette vérité oblige à dire. Et donc c'est des choses assez délicates. Moi je suis un grand partisan de la vulgarisation, j'y ai consacré une grande partie de ma vie, et je constate que ce n'est pas très efficace, parce que justement, dans notre façon de faire de la vulgarisation, nous n'avons pas tenu compte de certains biais cognitifs qui font qu'il y a une sorte de désaccord entre le message qui est émis, qui est expliqué, et la façon dont il est reçu. Les Français ont beaucoup de connaissances scientifiques, peut-être plus que dans d'autres pays. Mais nous avons en fait une mauvaise connaissance de nos connaissances. Par exemple, tous les Français savent que la Terre est ronde. Mais combien savent dire comment on a su qu'elle est ronde ? Tous les Français savent que l'atome existe. Mais combien savent dire comment on a su que l'atome existe ? Tout le monde sait que l'univers est en expansion. Qu'est-ce que ça veut dire ? Et comment est-ce qu'on l'a su ? Et le fait qu'on ait comme ça une très mauvaise connaissance de nos connaissances fait que nous les traitons un peu comme des croyances. Mmh. Et comme dans beaucoup de canaux de communication circulent à la fois des informations, des connaissances, des croyances, des commentaires, etc., les statuts respectifs de ces différents éléments se contaminent. Les connaissances sont considérées comme les croyances d'une communauté particulière. Les croyances sont considérées comme des connaissances d'un certain type, etc. Et ça crée une très grande confusion dont j'espère que nous apprendrons à sortir.
Vous ne pensez pas que la liberté dont vous parliez, celle du citoyen, on l'a vu à l'œuvre, même peut-être de manière imparfaite, malhabile, critiquable, mais on l'a vu à l'œuvre dans cette épidémie. Il y a eu une demande de savoir, une demande de connaissance, peut-être sous une forme impatiente, mais n'est-ce pas une bonne nouvelle tout de même ?
Si, c'est une très bonne nouvelle. Et d'ailleurs, je pense que la science et la recherche qui sont deux choses différentes. La science, c'est plutôt un corpus de connaissances. La recherche, c'est la tentative de répondre à des questions qu'on se pose et qu'on n'a pas encore tranchées. Et vous voyez qu'à mesure que le temps passe, on en sait de plus en plus sur l'épidémie. Et les chercheurs qui se sont beaucoup mobilisés pendant cette épisode, ont réussi ou réussissent en ce moment à faire parler un bout du réel, de sorte que certaines questions qui étaient maltraitées parce que les opinions des uns se heurtaient aux opinions des autres, finissent par converger dans ce qu'on appelle un consensus scientifique. La science, c'est pas un scientifique qui parle, c'est l'organisation de la controverse. Comme disait Karl Popper, la science, c'est la coopération amicalement hostile des citoyens de la communauté du savoir. Donc avant de réussir à faire parler un bout du réel, il faut commencer par s'engueuler.
L'organisation de la controverse, dites-vous. Il y a un homme qui est visé dans votre tract sans être forcément nommé, c'est le professeur Raoult. Certains ont vu dans la figure du professeur Raoult sa manière d'être et de parler, ses avis tranchés, la volonté de s'affranchir des canaux classiques de la validation scientifique en passant directement par YouTube. Et ont vu l'émergence d'un populisme scientifique. Est-ce que vous êtes de ceux-là ?
Non, moi, c'est faux de dire que le tract vise le professeur Raoult, que je ne connais pas, je ne connais pas ses travaux, et donc je ne vais pas verser moi-même dans l'ultra-crépidarianisme. En revanche, ce qui m'a choqué, c'est la façon dont on a traité toute cette histoire de la chloroquine, comme si le réel ne comptait plus. Ce qui comptait, c'était l'autorité qu'on accorde à la parole de l'un ou de l'autre, et beaucoup de gens avaient une opinion tranchée, comme on l'a dit sur ce médicament, sans même savoir ce que c'est. Et c'est ça qui me fascine, si vous voulez. C'est qu'on peut être, par exemple, pour la lutte contre le changement climatique, comme l'ont été beaucoup de jeunes, sans rien savoir de l'effet de serre. Comment le militantisme peut se décorréler de la connaissance ? Comment est-ce qu'on peut épouser une cause dont on ne comprend pas vraiment les tenants et les aboutissants et ce qui la fonde finalement scientifiquement. Prenez par exemple l'arrêt de la centrale de Fessenheim. Oui. Je comprends tout à fait qu'on soit anti-nucléaire, etc. Mais avant d'être anti-nucléaire, ou pro-nucléaire d'ailleurs, il faut être capable de dire un peu ce que c'est qu'une centrale nucléaire, pourquoi on y met de l'uranium, que ce qu'est la fission nucléaire, pourquoi c'est une énergie d'un certain type, etc. Et non, le militantisme a l'air de pouvoir s'exprimer indépendamment de la connaissance.
Mais quand il dit simplement, le professeur Ault, moi je suis médecin, je suis un scientifique, mon métier c'est de soigner, les gens sont malades, on est face à une épidémie, il faut bien essayer quelque chose, je propose quelque chose. Est-ce forcément critiquable?
Alors, évidemment que ce n'est pas critiquable, mais pour qu'un soin soit un soin, il faut avoir montré que c'est un soin. J'ai rien d'autre à dire.
Il dit... Oui. Ouais. Pardon, allez-y, allez-y.
Non, parce que vous écrivez dans le tract, ni Twitter ni Facebook n'ont vocation à concurrencer Nature, la revue scientifique ultra respectée. Mais quand on voit ce qui s'est passé avec l'autre revue scientifique ultra respectée, The Lancet, qui a critiqué la chloroquine et Raoult, avant de publier des excuses en disant non, notre enquête n'était pas juste, elle était biaisée, est-ce que ça contribue pas à mettre le doute dans la parole scientifique?
Il y a deux façons de lire, c'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle le Lancet Gate, une sorte de scandale. On a retiré un article, mais Nature aussi a retiré des articles. Et ça, c'est plutôt bon signe. Ça veut dire que si vous publiez un article et qu'au bout de quelques jours, des gens ont trouvé les moyens de le critiquer parce que sa méthodologie n'est pas correcte, il est retiré. Et c'est ça la science. On corrige ses erreurs. Par contre, quand vous recevez quelqu'un qui dit des bêtises à votre micro, est-ce que quelques jours plus tard, il revient pour dire « excusez-moi, je me suis trompé ».
Ça doit arriver très rarement.
Très rare. Voilà. Donc c'est ça la différence.
On va au standard de France Inter. Il y a des questions massives qui vous attendent, Étienne Klein. On commence avant l'existence de Dieu. On commence par Vincent qui nous appelle. J'arrive pas à lire sur mon écran. Vincent, vous avez la parole en tout cas. Bonjour.
Bonjour, je viens de Colombes.
Ah bah voilà.
Bonjour Nicolas Neuroran, bonjour Léa Salamé, bonjour Étienne Klein. Donc moi c'était par rapport à ce qu'affirme Étienne Klein, enfin, en tout cas ce que j'ai cru comprendre, comme quoi la parole scientifique aurait pris un petit peu le pas sur le politique. Alors moi j'ai quelques doutes par rapport à ça. Alors comme Étienne Klein l'a formulé, on a fait mention, donc il a parlé de Fessenheim. Donc là le pouvoir politique a arrêté une centrale en parfait état de fonctionnement et où toutes les institutions et toutes les instances, on va dire, scientifiques, comme l'ASN, l'IRSN, ont dit qu'elle était sûre et qu'elle fonctionnait bien. Mmh. Donc là, la parole scientifique, le pouvoir politique en a rien à faire, si vous me permettez l'expression. Mmh. Ce qui intéresse, c'est plutôt ses intérêts, on va dire, électoraux.
Mmh, merci. Et, oui, dites-nous encore.
La deuxième chose, c'est par rapport au Covid-19, il a par contre là instrumentalisé la parole scientifique, mais là, c'était plutôt pour ouvrir le parapluie et se protéger et peut-être éviter, là, dans cette situation, quelque chose un peu comme une affaire du sang contaminé ou quelque chose comme ça.
Bien compris, Vincent, Étienne Klein, je vous transmets les éléments de cette question.
Écoutez, le pouvoir politique, si vous prenez l'exemple du Covid, de l'épidémie, il y a un conseil scientifique, mais la politique, ça n'est pas de la médecine appliquée. Et donc, il y a d'autres paramètres, d'autres considérations qui entrent en jeu dans la décision politique. Par exemple, le Conseil scientifique aurait aimé qu'on prolonge le confinement.
Oui.
Mais pendant qu'on prolonge le confinement, l'économie se dégrade, la santé psychique, paraît-il, des gens se dégrade elle aussi. Et donc, il y a un moment, il faut prendre tout ça en compte, ce que ne fait pas le Conseil scientifique. Et donc, le politique doit garder une forme d'autonomie par rapport aux directives qui lui sont proposées. Maintenant, Fessenheim, c'est un peu la même chose. Il y a d'autres considérations que strictement scientifiques. Moi, ce que j'aimerais quand on arrête une centrale, c'est qu'on explique, qu'on argumente. Et ce qui fait défaut dans ce genre de situation, c'est l'argumentation. Moi, j'avais regardé une conférence de presse d'Angela Merkel, qui a fait un cours aux Allemands sur ce qu'est une exponentielle, sur ce qu'est le R0, un vrai cours de presque de physique sur la façon dont un virus se propage. Et je pense que quand on prend une décision comme celle-là, on doit en effet expliquer. La première ministre de Nouvelle-Zélande, qui est une femme remarquable dont le nom m'échappe, a fait hier une conférence en expliquant l'importance de la communication scientifique, l'importance de la vulgarisation, l'importance de la recherche. Elle a fait une sorte de plaidoyer très bien argumenté sur cette question. C'est peut-être ça qui nous manque en France.
C'est ça que vous auriez aimé entendre de la parole politique?
Oui, j'ai bien aimé la conférence de presse du 28 mars, moi. Il se trouve que je rentrais du Chili et j'ai été frappé par tous ces tweets « je ne suis pas médecin, mais je ». Et là, j'ai l'impression que les politiques parlaient avec les scientifiques d'égal à égal. Et ça m'a paru une situation assez exceptionnelle.
Avec un partage de l'incertitude.
Oui. Et puis un grand respect mutuel. Enfin, c'était assez beau à voir. Après, ça s'est un peu déformé.
On retourne au standard. Yamine, bonjour. Vous nous appelez de Bordeaux.
Oui, bonjour.
On vous écoute.
Bonjour à tous. Alors ma question, elle est que, à travers les divers exposés et livres d'Étienne Klein, bon, j'ai lu le dernier là, justement sur pourquoi la Terre est ronde, comme on l'a su. Est-ce que se dessine pas une question de fond à travers vos analyses sur le nouveau match ou une nouvelle manière de poser le débat entre croyance et raison?
Merci Yamine pour cette question, Étienne Klein.
Alors ce livre, c'est pas moi qui l'ai écrit, hein. J'ai créé une collection justement qui est le pendant du Que sais-je, qui s'appelle Comment a-t-on su, pour que justement nous ayons une meilleure connaissance de nos connaissances. Maintenant, il y a en effet une séparation, je pense, entre croyance et connaissance. Il ne s'agit pas de discréditer l'idée de croyance, nous avons tous des croyances. Mais parfois, certains sujets dans l'histoire des idées ont été promus en connaissance plutôt qu'en croyance, et c'est important de comprendre comment ça s'est passé. Comment est-ce qu'on a trouvé au cours de l'histoire des idées des arguments, des faits, des controverses qui ont fini par se régler, qui ont permis de transformer des croyances, ou certaines croyances en tout cas, en véritables connaissances. Et je crains que la frontière entre les deux, qui est poreuse par nature, le devienne encore plus, même si je suis bien conscient que parfois il y a des vérités qui sont plurielles, qui sont floues, qui sont indéterminées, et c'est celle que la recherche essaie de clarifier et de trancher.
Les fake news, les théories farfelues, parfois complotistes, ont accompagné cette épidémie du Covid, notamment sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'à votre avis, cette épidémie a accéléré le phénomène de suspicion généralisée à l'égard de la parole scientifique, de la parole institutionnelle? Est-ce que vous pensez, pour reprendre le titre de votre tract, que le goût du vrai que nous semblons avoir perdu est définitivement perdu ou que c'est réversible?
Ça, c'est ce qu'avait prédit Nietzsche, hein, puisque la phrase « le goût du vrai », ça vient d'un texte de Nietzsche qui s'appelle « L'avenir de la science » dans « Humain trop humain », dans lequel Nietzsche dit que le goût du vrai va disparaître à mesure qu'il procurera moins de plaisir. Alors, à propos du complotisme, c'est plutôt mon ami Gérald Bronner que vous devriez interroger. Je ne sais pas si le complotisme a augmenté. En tout cas, quand il y a un phénomène comme ça qui n'a pas de sens, un virus qui apparaît, ça n'a pas de sens, eh bien nous tentons de lui trouver un sens, soit en disant que c'est une vengeance de la nature qui voudrait se venger de nos comportements, ce qui est à mon avis absurde, parce qu'un virus n'a pas d'intentionnalité.
On l'a entendu, ça.
Ah, ça, on l'a entendu, oui. Ouais. Soit parce que ça n'a pas de sens, et donc le complotisme ou les thèses complotistes permettent de trouver un sens à ce qui n'en a pas. Ça rationalise finalement, d'une certaine façon, des événements qui par ailleurs n'ont pas de sens.
On retourne au standard. Un mot de Patrick sur les réseaux sociaux. Ça fait du bien d'entendre quelqu'un qui ne sait pas. Voilà ce qu'il vous dit. Dominique, bonjour.
Oui, bonjour.
On vous écoute.
Oui, bonjour tout le monde. Bien, mais écoutez, à juste titre, vous venez de distinguer les croyances des connaissances. D'ailleurs, sans remettre en cause tout à fait des croyances. Mais seulement, au vu des connaissances scientifiques et aussi de tout ce qui nous reste à découvrir, se pourrait-il qu'on découvre enfin la vérité sur l'existence ou non d'un grand horloger, d'un créateur, de Dieu? C'est-à-dire, dit autrement, la croyance ne procède-t-elle pas de paresse intellectuelle? Notamment, tout à l'heure, bon, moi je suis d'accord avec Vincent sur, en effet, le politique qui prend le pas sur la réalité scientifique. Il y a une autre dominante qui prend le pas, c'est le religieux qui de plus en plus dans le monde est en train de prendre le pas sur la politique.
Voilà. Bien compris, Dominique.
Dieu existe-t-il? Vous avez une minute.
Une minute, effectivement.
Alors, je suis en touche, je ne sais pas. Mais je vais transformer la question, si vous voulez. Quand j'étais étudiant, donc beaucoup plus jeune, je pensais que, avec mes collègues étudiants, on pensait tous que la science allait s'imposer et qu'au contraire, les religions allaient se relativiser. On parlait beaucoup d'œcuménisme et on pensait qu'il y aurait une fusion des monothéismes par des discussions qui permettraient de relativiser les thèses radicales des uns et des autres. Et en fait, on s'est complètement trompé, puisque c'est le contraire qui s'est passé. C'est-à-dire que c'est la science qui est victime d'un relativisme, avec l'idée que tout se vaut, tous les discours se valent. Et puis la religion, au contraire, les religions ont tendance à se radicaliser. Et donc je me demande si cette crise ne devrait pas nous faire comprendre que nous devrions relativiser notre relativisme. C'est-à-dire le relativisme, c'est comme le cholestérol. Il y a le bon et il y a le mauvais. Le bon, c'est celui qui nous fait comprendre que les idées ne naissent pas hors sol. Les idées scientifiques, elles naissent dans un certain contexte. Einstein découvre la relativité en 1905 parce qu'il est au bureau des brevets à Berne. Et il examine des brevets dans lesquels il est question d'électromagnétisme pour synchroniser des horloges à distance. Et c'est comme ça qu'il voit qu'il y a une faille dans l'interprétation de l'électromagnétisme qui va le conduire à abandonner l'éther luminifère et à produire une nouvelle théorie de l'espace et du temps. Donc le contexte a joué. Mais aujourd'hui, la validité de la théorie de la relativité s'est émancipée du contexte de son apparition. Et donc, elle ne dépend plus des circonstances très particulières dans lesquelles elle a pu voir le jour.
Relativisons notre relativisme, on ne va pas l'oublier.
On va méditer tout cet
été. Vraiment. Merci beaucoup, Étienne Klein. Le goût
Merci
du vrai tract, collection tract chez Gallimard, c'est le numéro 17. Et je renvoie au volume qui réunit l'ensemble des tracts de crise publiés entre le 18 mars et le 11 mai, sous titre « Un virus et des hommes », également chez Gallimard. Merci encore.
Merci à vous.
8h46.